grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Souvenez-vous quand l'instituteur ou le prof vous appelait au tableau pour réciter un poème, une leçon, présenter un exposé. Vous souffriez peut-être de glossophobie, cette peur très partagée de parler devant un public, que l'auditoire soit vaste ou restreint, peu importe, le stress, la boule au ventre, les mains moites vous accompagnent à chaque prise de parole. Parler en public, un cauchemar éveillé, une phobie, un stress énorme pour la plupart d'entre nous. Dans un pays qui a longtemps négligé la prise de parole, comment donner le goût de l'oral aux enfants et aux adolescents dans un système scolaire où l'écrit prime et emporte tout? Comment faire pour les désinhiber afin qu'ils s'expriment avec aisance et authenticité? Comment cultiver le plaisir de parler chez les élèves timides ou introvertis? Comment faire pour que l'art oratoire ne devienne pas une arme qui écrase, domine les plus faibles? Quelles sont les règles fondamentales de l'éloquence et de la rhétorique? Nous évoquerons également quelques techniques vocales fondamentales. Rappelons qu'à partir de 2021, les bacheliers passeront un grand oral qui comptera pour 15% de la note finale. Mieux vaut s'y préparer dès maintenant. Pour nous aider ce matin, trois experts, Stéphane de Freitas, Romain de Charnes et Valérie Guerlain. Nous attendons toutes vos questions et témoignages sur la prise de parole en public de vos enfants au 01 45 24 7000. Les enfants peuvent également nous appeler mercredi oblige. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Alors votre jeune fils pourrait appeler le standard tellement il est éloquent à son âge. Hein.
Non, je ne sais pas.
Si, j'ai pu le constater. Quoi de neuf à la une du 1 ce matin?
Eh bien, la France passe son grand oral à partir de depuis hier avec le grand débat. Donc, on se demandera, nous, comment écouter le peuple, ses grands enfants.
À tout à l'heure, Julien Bisson. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébi.
Bonjour à tous nos invités. Bonjour Stéphane de Freitas.
Bonjour.
Vous êtes le concepteur des programmes de prise de parole et du concours Eloquentia. Vous avez réalisé l'excellent documentaire à voix haute et vous publiez aux éditions Le Robert, Porter sa voix, s'affirmer par la parole. Romain de Charnes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, vous enseignez l'art oratoire à Sciences Po et vous avez fondé l'association Graines d'Orateurs, c'est ça?
C'est ça, et la Fédération Francophone de Débat.
Exactement, oui. Et vous organisez des concours d'art oratoire dans les établissements scolaires. Bonjour Valérie Guerlain.
Bonjour.
Comédienne, voix off, professeur de théâtre. Certains reconnaîtront peut-être votre voix. Vous étiez par exemple la voix off de l'émission C'est pas sorcier, hein, c'est culte, hein, Julien
oui.
Bisson. Ah, ça vous fait plaisir de l'avoir là autour de la table.
Je vous ai tous bercé, là.
Exactement. Et vous publiez au Livre de Poche un très bon livre, un inédit paru au Livre de Poche, ça s'appelle Petit manuel à l'usage de ceux pour qui l'oral est un cauchemar.
Il y en a.
Et pourquoi, tiens, parler en public reste un cauchemar pour la majorité d'entre nous, Valérie Guerlain?
Eh bien parce que d'abord il faut ouvrir la bouche. Donc ouvrir la bouche, ça sous-entend s'aimer, être capable de montrer à toutes les personnes qui sont autour de nous la personne que l'on est. Et pour ça, il y a des techniques, mais la peur du regard des autres, c'est quelque chose qui paralyse considérablement les jeunes et les moins jeunes. Et souvent, quand j'ai des élèves qui ont entre 40 et 50 ans, ils viennent me dire « mais si j'avais eu cette méthode quand j'étais ado, j'aurais perdu beaucoup moins de temps ».
Stéphane de Freitas, on a peur de quoi ?
Bah, en fait, c'est ce qui est paradoxal, c'est quand on est bébé, quand on est enfant, on ouvre la bouche spontanément. Et puis ensuite, quand on va à l'école, on doit faire silence, on doit écouter le professeur. Et finalement, on nous apprend à ne plus nous libérer. Et finalement, c'est notre éducation en rapport aux autres qui est en jeu. On peut appeler ça l'éloquence. Moi, je préfère parler de prise de parole éducative au niveau du système scolaire. C'est d'en fait apprendre à nous ouvrir à l'autre. Dans une société métisse et plurielle comme la société française, où on est différent, on a des religions différentes, c'est un vrai enjeu. Donc cette peur de l'autre qui est en question au moment de s'affirmer, de parler avec les autres, c'est tout l'enjeu et ça cause beaucoup d'angoisse, de crainte.
Romain de Charnes, vous la comprenez, cette peur de parler en public? Pour certains, c'est difficile, voire impossible.
Oui, bien sûr, je la comprends tout à fait, parce que moi, j'ai eu très longtemps peur de parler en public. Et peur parce qu'en fait, on connaît pas l'exercice. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir de la peur d'être jugé, on connaît pas l'exercice parce qu'on le pratique pas, à l'école, on le pratique nulle part. Et donc, on a peur de tout ce qu'on connaît pas. Et notamment la prise de parole. Et donc c'est pour ça que moi un jour je me suis dit bah tiens, je vais m'inscrire, je vais progresser, je vais essayer de vaincre ma peur, parce que dans le monde professionnel après ce sera trop tard. Et voilà.
Alors, contrairement au monde anglo-saxon, les petits Français n'apprennent pas la prise de parole en public, Stéphane de Freitas. Dans les pays anglo-saxons, il existe ce que l'on appelle le show and tell. Expliquez-nous ce que c'est. Dès la maternelle, on apprend ça. Hein.
Dès la maternelle, on apprend aux enfants, donc dès l'âge de 3 à 4 ans, à dire aujourd'hui leur humeur du jour, ou d'expliquer par un geste, un mot et un geste leur état d'âme. Ça peut être aussi un rêve, une ambition, donc un mot, une expression par le corps. Voilà, il y a aussi l'humeur du jour, alors ça s'est beaucoup plus propagé, mais c'est un apprentissage en fait de l'éducation émotionnelle, de faire un travail non seulement d'introspection, parce que quand on parle de prise de parole, il y a un travail qui est en amont, c'est-à-dire de ressentir qu'est-ce qu'on ressent, comment on organise le propos, on choisit le bon mot, et comment on le partage ensuite avec la bonne voix, les gestes et le corps. Et cet alignement, c'est cette congruence qu'il faut rechercher. Donc c'est un travail de développement personnel avant tout.
Romain de Charme.
Alors c'est très intéressant parce que c'est vrai que les Américains pratiquent constamment l'exercice. Et donc c'est lié à leur conception protestante où vraiment ils ont utilisé l'art oratoire et la rhétorique d'une manière utile. Et d'ailleurs, vous savez que le cinquième président des États-Unis est un ancien prof de rhétorique qui s'appelle John Quincy Adams.
John Adams.
Exactement. Et donc vraiment ça montre à quel point l'art oratoire est important dans le système américain, et on le voit même avec les hommes politiques américains. C'est vrai qu'il y a pas de comparaison entre nos hommes politiques et leurs hommes politiques. Leurs hommes politiques sont beaucoup sont très à l'aise à l'oral. On peut parler d'Obama, on peut même parler de Trump. Alors ils ont des styles différents, mais quand on voit nos hommes politiques, ça fait quand même peur.
Valérie Gerlin, le système éducatif français ne favorise pas la prise de parole. Sans schématiser ni caricaturer, l'oralité appartient plutôt à celui qui détient le savoir.
Alors oui et non. Parce qu'on peut détenir le savoir, parce qu'entre un jeune diplômé qui a la tchatche et un autre qui n'en a pas, l'employeur, il va faire son choix très très vite.
Mais je vous parle en classe. En classe,
alors,
c'est
en classe,
le professeur, il détient le savoir,
oui,
et c'est lui qui détient les clés de l'oralité.
Oui, il faudrait déjà qu'il apprenne un petit peu à parler et à communiquer sa motivation et son intérêt à ce qu'il enseigne. Non, au-delà de ça, on n'apprend pas l'oral à l'école. Et ça, c'est grave. C'est extrêmement grave, parce que on présente des exposés, on se place devant une trentaine de gosses qui sont tous prêts à vous envoyer des tomates. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous devez être le plus brillant, le plus oratoire possible, le plus articulé, etc., etc. Et là, je dis, au secours, messieurs les ministres, il faut se réveiller. Moi, ça fait 10 ans, juste une seconde, Ali, ça fait 10 ans que je me pointe régulièrement au ministère de l'Éducation nationale pour leur dire « Allô, il faut une matière, parce qu'on apprend le français,
alors,
mais pas comment le parler. »
À partir de 2021, les bacheliers passeront un grand oral, et dès la rentrée 2019, les élèves de 3e auront droit à un cours hebdomadaire d'éloquence. Stéphane de Freitas.
Tout à fait. Enfin, alors moi, sur les profs d'Éducation nationale, je dirais que la question est peut-être un petit peu plus complexe, parce que nous, on intervient avec Eloquentia dans presque 150 établissements scolaires désormais. Ça ne cesse de continuer. On a des dizaines chaque année de formations de formateurs désormais à la pédagogie portée sa voix. Cette année, on forme 80, donc beaucoup d'enseignants de l'Éducation nationale. Et beaucoup, en fait, ont déjà anticipé. Il y a une génération qui ne peut plus rester assise. On est dans cette génération du peer-to-peer. On doit échanger, interagir. Et les salles de classe ne peuvent plus être des lieux où le professeur est le hussard noir qui détient la parole. Les autres doivent l'écouter et derrière restituer le savoir. Ça doit être des lieux d'échange, d'interaction, de dialogue. Donc beaucoup d'enseignants ont finalement déjà, depuis 10 ans, mis en place des débats participatifs des enjeux. Et c'est très important, même si moi je plaide aussi, pareil, depuis des années, et que sur la réforme, on participe énormément à cette transition. C'est plutôt, on a vu chez cette jeune génération une soif dans les réseaux sociaux de s'exprimer. Elle est habituée à s'exprimer, à dire ce qu'elle pense, et dans les salles de classe, il y a cette envie. Et il faut accompagner les enseignants, mais bon nombre d'entre eux déjà, c'est important de leur rendre hommage quand même, bon nombre déjà ont commencé à mettre un certain nombre de procédés, et désormais il faut réussir à trouver, pour ceux qui sont désemparés en revanche, tout un tas de. Un cursus et un cheminement pour ceux qui, pour le coup, sont désemparés, puisque dans les formations CAPES, il y a effectivement aucun conseil, aucune matière, lorsqu'ils passent le CAPES, qui concerne cette matière de l'oralité.
Dans les collèges et dans les lycées, il n'y a absolument rien. Alors, il n'y a rien Du tout.
Non, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose. Et alors là où Stéphane a raison, c'est qu'il y a une vraie volonté, mais c'est que ceux qui souffrent, le mine de rien, de plus de la prise de parole dans l'éducation nationale, ce sont les profs. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'en réalité de sentir qu'on ne sert à rien et de sentir qu'on n'est pas écouté. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout les clés aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement ils ne savent pas apprendre la prise de parole, mais ils ne savent pas mettre d'art oratoire et d'oral dans les cours, et c'est ça le problème.
Vraiment, pardon, c'est très important, enfin, de faire une généralité comme ça sur les enseignants. Je trouve ça hyper périlleux, si je puis me permettre, parce qu'on vraiment travaille avec un certain nombre d'entre eux. Il y a une volonté. Je vous rejoins, Romain. Il y a une volonté, mais dire que les enseignants ne savent pas faire, au contraire, moi, la réalité des faits, c'est que je m'aperçois que sur le terrain, ça fait 10 ans que beaucoup d'enseignants ont mis en place des exercices pratiques d'oralité. Qu'en revanche, effectivement, au niveau du système éducatif, la réforme arrive un peu tardivement, mais parce que ça vient confirmer une tendance, et que maintenant se pose la question, c'est qu'est-ce qu'on met, quelle est la pédagogie, qu'est-ce qu'on fait pour former les enseignants. Et c'est surtout ça l'enjeu, c'est peut-être aussi l'enjeu de la discussion aujourd'hui, mais il y a quand même une tendance, et il y a quand même beaucoup d'enseignants déjà qui ont pris ce virage, et beaucoup d'autres qui sont désemparés, et ça c'est vrai, c'est comment les accompagner maintenant.
Julien Bisson, moi j'aurais une question pour vous, qui est sur ce que vous entendez derrière l'oralité. Moi le souvenir que j'ai, et nos souvenirs d'école partagée, je pense pour le plus grand nombre, c'est quand on allait au tableau, c'était pas pour l'expression, c'était pour la récitation. C'est la récitation d'une poésie, la récitation d'une leçon, la récitation d'un exposé qu'on avait quasiment appris par cœur. Et c'était plus de la récitation que la libre expression, que l'éloquence. Donc comment est-ce que l'oralité, le travail de l'oralité peut aussi justement dépasser le simple cadre de la récitation pour aller vers la libre expression des élèves?
Romain Decharme.
Alors déjà, l'oralité, il est très important que les élèves prennent la parole d'une manière spontanée et habituelle. Et donc pour répondre à Stéphane, moi je pense que c'est pas un problème de pas savoir faire. Ce qui est important, c'est que c'est un savoir-faire de savoir mettre de l'oral dans son cours. Et c'est un savoir-faire d'apprendre à le faire. Et il y a plein de profs, moi que je rencontre d'une manière générale dans l'éducation nationale, qui ont envie d'apprendre. Et c'est normal, c'est parce que depuis la Révolution française, il n'y a plus de cours d'art oratoire et il n'y a plus d'oral dans les cours. Donc c'est normal que les profs soient désemparés et que ce soit un problème. Aujourd'hui, c'est pas du tout une critique là-dessus. J'ai été en difficulté et j'ai voulu apprendre aussi. Donc je voulais juste revenir là-dessus.
Allez, nous attendons toutes vos questions et témoignages sur la prise de parole en public de vos enfants et adolescents. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Laura Laplot et de Nicolas Bove, et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
Gainsbourg et son Gainsborough ont pris le ferryboat. De leur lit par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années érotiques.
Gainsbourg et son Gainsborough vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année, et que les dieux les bénissent jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69
sème et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années érotiques.
Serge Gainsbourg et Jane Birkin, 69 années érotiques.
Oh, vous m'entendez là?
Voulez-vous parler plus fort?
Grand bien vous fasse.
Vous êtes dur d'oreille, c'est ça?
Vous dites, je vous demande de parler plus fort.
Sur France Inter.
10h22 et ce matin, nous vous délivrons quelques clés pour que vos enfants apprennent à prendre la parole en public. Question témoignage au 01 45 24 7000. Écoutons des enfants qui ont participé à un concours d'éloquence.
Bienvenue à la finale de l'éloquence. Ce qui est très important, c'est qu'il faut que vous souteniez votre équipe.
Clarisse, Enzo, Juliane, tous se sont préparés pendant des semaines.
Alors, moi, tout d'abord, je trouve que gagner est plus important.
Je vais contredire ces quatre.
Ils ont appris à argumenter, à ne plus avoir peur face au public. Ils ont surtout appris que la maîtrise des mots les aiderait à devenir des citoyens libres.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, la question va être, faut-il être riche pour être heureux?
Extrait d'envoyé spécial, Romain de Charnes, vous participez à ce reportage. Vous avez organisé ce concours d'éloquence dans une école de l'Essonne. C'est un don du ciel, l'art oratoire, ou est-ce que ça s'apprend?
Alors, c'est absolument pas un don du ciel. C'est comme tout dans la vie, c'est du travail. Et c'est que et uniquement du travail. Dans tous les milieux, il y a des génies, il y a des artistes. Mais si on veut devenir bon et très bon, c'est uniquement du travail. Il y a deux pans sur lesquels il faut travailler. Il y a à la fois la forme, donc on a parlé de la voix, il y a des experts de la voix, de tout ce qui est la forme, la gestuelle, etc. Mais il y a surtout le fond. Le fond, c'est la chose la plus importante. Et je pense que c'est de là d'où vient la peur des gens aussi de parler en public, c'est de ne pas avoir confiance de ce que l'on dit, de ne pas savoir le structurer, de ne pas savoir argumenter, de penser que ce qu'on dit est nul. Et ça, c'est très très et c'est extrêmement important de travailler le fond.
Stéphane de Freitas a réalisé le documentaire à voix haute. Ça s'apprend ou pas? C'est un don ou pas l'art oratoire?
Alors en fait, il y a quelque chose d'inné. C'est très important de le dire. Effectivement, on n'est pas égaux face à ça. Et puis, c'est pas une question forcément de milieu social, de nature. Enfin, c'est vraiment quelque chose de naturel à l'origine. On peut avoir des difficultés à s'ouvrir aux autres, parce que c'est l'enjeu du rapport aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est dans chacun d'entre nous. On est spontané ou pas, ou moins, ou timide. Donc, c'est le premier enjeu, c'est le premier constat. Et ensuite, il y a la méthode et le chemin pour réussir à se sentir plus à l'aise à l'oral. Alors, on peut parler de travail, on peut parler de pratique, on peut parler d'habitude, les termes sont différents. Et aussi, c'est important de le dire, on n'en a pas parlé au cours de cette émission de l'oral, mais moi, il y a quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui, on entend le mot art oratoire, éloquence, notamment des cours d'éloquence, qui a été consacré à la rentrée 2019 pour chacun des collèges, la demi-heure instituée désormais pour en prévision de l'oral du collège, c'est un cours d'éloquence. Or, l'éloquence, ça veut tout et rien dire. L'éloquence, pour ma part, moi je milite pour une notion d'éloquence, parce que avant même de rentrer dans la question de débat, il y a la question de sémantique. Qu'est-ce qu'on met derrière l'oral, l'art oratoire, la prise de parole? Il y a tellement de notions qui derrière vont conditionner quelle est la pédagogie qu'on va mettre derrière. L'art de convaincre à tous les coups. Par exemple, on parlait tout à l'heure avec Romain de politique. Mais l'éloquence politique, c'est un objectif. C'est-à-dire de convaincre, c'est la finalité justifie l'argumentation. La prise de parole éducative, ce que nous on essaie de mettre en place, et à partir de maintenant on mène les premières expérimentations en maternelle, dans les prochaines semaines, c'est surtout de réussir à sortir de soi, à réussir à exprimer une émotion, son sentiment, pour que plus tard, on puisse être dans cet alignement. Donc, il y a différents objectifs. Pour ma part, je dis que l'éloquence, moi, je préfère la consacrer, que ce soit le cours d'éloquence. Effectivement, l'art oratoire, moi, j'aime bien parler d'art oratoire, effectivement, parce que c'est quelque chose qui se perçoit, qu'on ressent, quelqu'un peut nous toucher plus ou moins. Mais le terme d'éloquence, pour moi, je le consacre lorsque une personne me touche. Et dans l'histoire des cours des formations que soit que j'ai pu dispenser ou que nos formateurs dispensent, j'ai pu voir des jeunes bègues qui n'ont jamais été à la hauteur de peut-être des showman, des gens qui font des discours comme à la manière de comédien ou de showman, mais des personnes qui ont livré quelque chose qu'ils avaient au fond des tripes, au fond de leur cœur, et là ils ont touché l'éloquence. Donc attention, derrière ce qu'on met la notion de d'art oratoire ou d'éloquence, il faut le préciser. Il y a le débat repose d'abord sur cette question-là.
Petite précision, selon Le Robert, l'éloquence, c'est l'art de persuader par le discours, c'est également la facilité pour s'exprimer. Valérie Gerlin.
Vaste question. Je suis d'accord avec mes deux amis, mais je dirais qu'avant de pouvoir être éloquent, argumenter, travailler dans la rhétorique, etc., il faut ouvrir la bouche, messieurs. Et pour ouvrir la bouche, il faut savoir un petit peu qui on est. Et l'estime de soi est pour moi la base, la confiance en soi. Quand on n'a pas confiance en soi, quand on ne sait pas qui on est, quand on ne sait pas la valeur de ce qu'on est, on a quand même des difficultés à ouvrir la bouche. On va chercher dans le regard des autres l'amour, alors que parce qu'on ne s'aime pas. C'est pour ça qu'on va chercher l'amour chez les autres et le regard des autres nous fait peur, parce qu'on se demande, mon Dieu, si je dis des bêtises, est-ce que l'autre va m'aimer quand même ? Donc moi je suis vraiment à la base, à la méthode rose de l'art de l'oral, d'accord ? Vous en êtes déjà aux partitions un peu plus élaborées.
Pour ouvrir la bouche, oui. Il faut savoir le faire. Et pour exprimer ses idées,
ce qu'on veut
exprimer, il faut savoir le faire. Et donc elle part aussi de là, de cet apprentissage. Là, l'oratoire. Et pour répondre à Stéphane sur l'inné, non, parce que c'est très important. Sur l'inné, c'est d'accord, on est tous avec des facilités ou non. Maintenant, si on travaille dessus, vous allez dépasser les gens et très largement qui ont des facilités. Parce que très régulièrement, les gens qui ont des facilités ne travaillent pas et n'écoutent pas les feedbacks. Et ce sont ceux qui sont le plus en difficulté, qui travaillent dur, qui progressent et qui vont le plus loin. Et ça, notamment dans l'oratoire, ça se vérifie constamment.
Valérie Gerlin.
Oui, juste pour vous dire qu'évidemment que ça se travaille, la technique de l'oral. Moi, je passe par la technique du comédien parce que je l'ai apprise au cours Simon lorsque j'avais... un petit peu moins de votre âge. Et donc, la technique, c'est effectivement l'articulation, la diction, et ensuite on passe à l'élocution. Donc, avant de travailler tout ça, on respire. On respire avec le ventre. La respiration ventrale, c'est une chose extrêmement importante qu'on n'apprend nulle part et qui permet aussi bien à des chanteurs, à des comédiens et à certains hommes politiques. Mais vous n'allez pas me couper la parole parce que vous êtes bien élevé. Donc, je voudrais terminer. Moi, les enseignants sont venus à mes stages pour pouvoir enseigner à leurs propres élèves. C'est-à-dire que il y a un moment où il faut arrêter de se mentir. Pour bien parler, il faut avoir une technique et travailler la technique.
On
et
ça, reviendra je suis tout à l'heure sur la technique. On y reviendra tout à l'heure. Bonjour Léa.
Bonjour.
Vous êtes lycéenne et vous êtes championne d'art oratoire, un championnat organisé par la Fédération française de débat de
francophone.
Francophone. Oui. C'est un don chez vous, la prise de parole ou c'est quoi ? C'est vous avez beaucoup travaillé ?
Oui, j'ai plutôt beaucoup travaillé. Je pense que on peut pas réellement parler de don. On peut être à l'aise, on peut ne pas être timide de base, mais c'est réellement quelque chose qui se travaille. C'est comme un sportif, il doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement, même les plus grands sportifs, ils ont dû beaucoup travailler pour ensuite pouvoir être à l'aise et atteindre un bon niveau. Donc je pense que c'est réellement un travail, écouter les conseils, écouter les critiques, écouter ce qu'on nous dit, prendre ces conseils-là et avancer. À chaque fois qu'on reprend la parole.
Quel conseil vous avez envie de donner aux enfants, aux adolescents qui nous écoutent ce matin, qui ont peur de prendre la parole en public ? Un conseil essentiel pour vous ?
Je pense que le plus dur, c'est d'oser. Le plus dur, c'est quand on dit qui est volontaire, c'est de lever la main et d'y aller. Et ensuite, je pense qu'une fois qu'on prend la parole, c'est vraiment avoir confiance en ce qu'on dit. C'est-à-dire que pour avoir confiance en ce qu'on dit, j'écoutais ce que disait tout à l'heure la dame qui est sur le plateau.
Valérie Gerlin.
C'est vrai que oui, voilà. C'est vrai que c'est difficile quand on a notre âge ou même quand on est plus jeune d'avoir réellement confiance en ce qu'on est. Et donc c'est pour ça que déjà avoir confiance en ce qu'on dit, et ça se passe à travers l'apprentissage, c'est-à-dire on apprend à comment le dire, on apprend la manière de formuler une idée. Je pense qu'il faut réellement savoir comment le dire pour ensuite prendre confiance, pour ensuite prendre la parole et ensuite avoir confiance en qui on est. Moi, par exemple, je savais pas réellement qui j'étais avant de faire de l'art oratoire. J'en ai fait, j'ai pris confiance, j'ai osé et maintenant ça m'aide à prendre confiance en qui je suis, mais seulement maintenant, après avoir fait de l'art oratoire.
Restez avec nous, Léa. On a Thomas au téléphone. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vous avez 20 ans aujourd'hui, vous êtes étudiant en journalisme. Vous prenez des cours de théâtre depuis l'âge de 10 ans et vous, ça vous a beaucoup aidé parce que vous étiez plutôt timide, hein, c'est ça?
Oui, en effet, grâce à Valérie, en fait, Valérie m'a beaucoup apporté.
C'était votre prof, votre prof, Valérie Gerlin.
Oui, Valérie Gerlin était ma prof, justement. Et à travers la pratique du théâtre, en fait, j'ai réussi à vaincre ma timidité, oui, car j'étais timide. Mmh. J'ai acquis une confiance en moi qui m'est maintenant des plus précieuses aujourd'hui, donc sur le plan personnel, sur le plan professionnel, avec les cours, les spectacles, etc. En fait, elle nous a fait vivre, à moi comme aux autres, une réelle aventure. Elle nous a aidé à dépasser nos limites.
Bon.
Elle m'a appris aussi à pas avoir peur du regard des autres, quoi qu'il advienne, tout ça. C'était génial.
Merci beaucoup, hein, Thomas et Léa. Qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants timides qui ont peur de prendre la parole, aux introvertis qui n'éprouvent pas un besoin fou de s'exprimer publiquement, Valérie Gerlin? Qu'est-ce qu'on leur dit?
Il faut leur dire déjà qu'il faut avoir envie. Aujourd'hui, l'envie a été un petit peu mangée par les écrans tactiles et autres. On se fait livrer comme des rois, on appuie sur un bouton, on a ce qu'on veut, donc on n'a plus envie. Et plus envie, ça développe la flemme, trop la flemme de faire ceci, trop la flemme de faire cela. Donc au lieu de parler, on va envoyer des textos. Donc moi, j'ai envie de leur dire, l'avenir appartient à ceux qui savent le dire, à ceux qui savent dire qui ils sont et pourquoi ils sont là, et ce qu'ils sont capable de proposer au monde entier.
Romain de Charme.
Oui, puis il faut pas se trouver non plus des excuses. C'est-à-dire que parfois il faut se forcer un peu parce que ça fait tellement du bien après de plus être stressé, de plus avoir peur, et que ce qui est important, c'est véritablement de se dire que quand on est au lycée, quand on est jeune, quand on est moins jeune aussi. Mais quand on est dans le système éducatif, c'est le seul moment où on a le droit de se planter. Alors, bien il sûr. Faut prendre ce moment d'apprendre à se planter. Ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas le centre du monde. C'est pas grave. Vous pensez que vous allez vous taper la honte, mais les gens ne se souviendront pas de ça. Ce n'est pas grave. Il faut apprendre à se planter.
L'échec est formidable.
Les vertus de l'échec.
Mais les vertus de l'échec. L'échec, ça nous apprend tellement de choses. Alors que la réussite, on a réussi. Merci. Bonsoir.
Stéphane de Freitas.
Non, je dirais que, c'est hyper important, effectivement, de pratiquer, de prendre cette habitude dès le plus jeune âge. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, avec la réforme qui va imposer un moment d'échange, de dialogue, de prise de parole, c'est aussi, ça va être justement un moment de dialogue. On est une génération qui a vécu la crise sur la liberté d'expression. Et un des enjeux majeurs qu'on s'est posé, c'est comment faire société ensemble, comment justement, là on est dans une période d'un grand débat national, on est un pays qui a eu des difficultés à échanger, à dialoguer. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que ces cours-là qui vont être impartis vont permettre à tout un chacun, alors chacun sa pédagogie, sa manière de faire, mais de pratiquer. Il y a des cours de théâtre déjà à l'école, ça peut être porter sa voix, il y a différentes prismes d'apprendre les élèves à prendre la parole, mais ce qui est intéressant, c'est que désormais il y a des agora qui vont exister, et ça va permettre aux enseignants de faire vivre soit des cours d'histoire, refaire le procès de Nuremberg, parler des sujets d'actualité. Mais on va chacun pouvoir partager son point de vue et dialoguer.
Quel conseil donnez-vous à un enfant de 8-10 ans qui a peur du regard des autres quand il doit faire un exposé en classe?
Alors, le premier conseil que je dirais, c'est d'abord, quand on fait un exposé, il faut savoir que plus on le prépare en amont, plus la restitution est facile. Donc il y a une partie, il y a deux choses. Il y a l'improvisation, et quand on est à l'école, c'est un lieu de savoir. Donc quand on travaille bien le savoir en amont, quand on ordonnance bien son propos, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est un travail qui est aussi bien en amont d'écriture. On parle de restitution à l'école, hein. C'est de lui dire, quand tu sais que tu vas faire un exposé, bosse le mieux en amont, n'apprends pas forcément par cœur, garde peut-être les idées clés, et derrière, restitue-les de manière plus naturelle qu'il soit.
Valérie Gerlin.
Oui, moi je pense qu'il faut absolument se dire qu'avant 10 ans, c'est un peu compliqué. Puis les enfants n'ont pas franchement d'inhibition jusqu'à 10 ans. C'est à partir de 10 ans que ça commence un petit peu à devenir compliqué. Et que là, ce serait pas mal d'avoir des cours où on enseigne comment avoir confiance en soi. Parce qu'on dit aux gens, on leur met sur les bulletins, Kevin n'a pas confiance en lui. Ah ouais, super. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a une méthode pour avoir confiance? Oui, il y a une méthode. Elle est là-dedans. Pour avoir confiance en soi, il y a 9 points clés. Oui, oui, bien sûr, dans mon livre. Il y a 9 points clés essentiels et je vous assure que ça fonctionne. Une fois que vous avez confiance en vous, la vie, elle est tellement plus belle, quoi.
En tout cas, vous savez vendre votre livre, Valérie Gerlin. Julien Bisson, chaque semaine, vous portez un regard singulier sur la société française. Cette semaine, à la une de l'hebdomadaire Le 1, ce ne sont pas les enfants, mais le peuple entier qui demande à prendre la parole.
Ah oui, mon cher Ali, ce peuple qui est invité depuis hier, on le disait, à prendre part à un grand débat national qui devrait durer 2 mois. L'occasion pour nous de nous interroger sur le fonctionnement même de notre démocratie. Qui peut parler au nom du peuple? Qui sont ses porte-parole légitimes si ce ne sont plus les élus de la nation? À commencer par le premier de ces élus au sommet de l'État. Le mouvement des Gilets jaunes ne soulève pas seulement une partie, somme toute modeste, de la population française, il soulève toutes ces questions autour des notions de représentation, de légitimité, et partant de démocratie dans ses formes les plus directes, à l'heure où la révolution numérique et les mobilisations qui réunissent des individus via les réseaux sociaux supplantent les anciens mots d'ordre politiques et syndicaux. Comme l'explique l'historien Gérard Noiriel dans nos colonnes, auteur d'une histoire populaire de la France, ce mouvement replace les classes populaires au cœur du débat politique. Ces classes populaires qui ont fini par en disparaître à force de reproduction des élites et de revendications identitaires et qui ne supportent plus aujourd'hui de ne plus être entendues par leurs représentants.
Alors Julien, comment rendre la parole au peuple?
Il y a déjà ce grand débat, donc censé ouvrir les cahiers de doléances pour nous permettre à nous tous de nous exprimer. Mais comme le rappelle le politiste Loïc Blondiaux, qui est grand spécialiste de la démocratie, pour qu'un débat soit un succès, il faut absolument 2 éléments. 1. L'indépendance de l'organisation et 2. La perspective d'une action, d'un changement à son issue. Or, on voit bien que d'un côté comme de l'autre, ce débat suscite déjà quelques doutes. On peut aussi aller plus loin, on peut imaginer comment renouveler nos institutions, mieux associer les citoyens, avec le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne, ou encore des assemblées populaires, des nouvelles façons de voter. Mais pour Loïc Blondiaux, l'enjeu démocratique dépasse le simple cadre de ces institutions politiques. Il faudrait, dit-il, s'assurer d'un profond changement de notre modèle éducatif, qui veillerait à ne plus produire des élites arrogantes, formées à des savoirs abstraits, détachées de l'expérience, qui finissent par croire qu'elles ne peuvent gouverner sans l'appui des autres. Des gens à qui on n'a jamais appris l'empathie, la coopération, mais plutôt la concurrence, la compétition. Si nous souhaitons une démocratie apaisée, nous devons donc, dans l'ensemble de la société, développer les émotions démocratiques, les formes de vie démocratique, à la maison, à l'école, dans l'entreprise. Et peut-être, qui sait, pourrons-nous ainsi de traiter les membres du peuple comme des grands-enfants, avec, vous savez, ceux qui font bien et ceux qui déconnent. Sinon, ce sont eux qui cesseront bientôt de lever le doigt avant de prendre la parole.
Comment écouter le peuple? C'est le grand dossier de la semaine à découvrir dans l'hebdomadaire Le 1, en kiosque et en librairie. N'hésitez pas à nous appeler sur la prise de parole de vos enfants et de vos adolescents au 01 45 24 7000. Out of sight, I'll be forgiven. In the forefront, I'm forced to break away. I'm trying to be someone, but I don't even know what that means. I'm trying to do something, but I don't even know what that means. Thank you. interpréter Out of Sight.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebi.
10h42 et ce matin, nous vous délivrons quelques clés pour que vos enfants apprennent à prendre la parole en public. Question témoignage au 01 45 24 7000. Écoutons des enfants ravis d'avoir participé à un concours d'éloquence.
Là, je me suis plus projetée parce que vu que je me sens vraiment à l'aise, et ben, je me suis imaginé des choses dans le futur. Ben, j'aimerais peut-être faire des choses dans l'oral.
Si on décide de faire un métier comme avocat ou un métier où tu rencontres des personnes et tu dois leur faire de la vente, et ben, il faudra pouvoir s'exprimer devant les autres. Et ça m'a franchement aidée pour pouvoir me lâcher prise en quelque sorte.
Moi, je pense que ça sert aussi quand tu cherches un travail. Souvent, tu dois aller voir quelqu'un qui va te poser des questions sur ce que tu voudrais être. Et pour cela, il va falloir que tu cherches tes mots et que tu arrives à bien assembler les phrases et trouver les bons gestes qui vont avec.
Extrait d'Envoyé spécial diffusé sur France 2 l'année dernière. Stéphane de Freitas, pour être éloquent, il faut d'abord sonner juste pour vous. L'idée, c'est d'être raccord, de ne pas tricher.
Tout à fait. En fait, c'est pour moi, pour atteindre...
Et ces enfants sont justes ?
Tout à fait. Parce qu'ils sont sincères, ils sont alignés. On sent que les mots viennent du cœur. Qu'ensuite ils sortent plutôt spontanément et qui sont justement alignés. Pour ma part, je pense vraiment que la prise de parole éducative, parce que cette prise de parole, on parlait tout à l'heure que pour gagner confiance en soi, il faut d'abord ouvrir la bouche. Oui, mais il faut réussir à dire ses premiers mots pour qu'on arrive à se construire une image face aux autres qui nous la renvoie et qu'on puisse se construire sa confiance en soi. Donc, c'est pas que c'est... Il y a une méthode qui est à la base, c'est que justement, c'est cette pratique, ce travail sur l'individu, puis sur le collectif aussi, l'apprendre à créer un cercle de valeurs où on est dans le respect, l'écoute et la profonde bienveillance vis-à-vis de l'orateur, où on remplace le jugement par le questionnement. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Est-ce que tu as des preuves pour dire ça? Et on crée un climat de confiance où un dialogue s'installe. On n'est plus uniquement dans des prises de parole unilatérales et il y a une énergie qui se met en place et donc on change notre rapport aux autres et on commence à gagner confiance dans les autres et aussi se dire, bah, en fait, je peux me libérer. Donc c'est un parcours, c'est une aventure, qui est d'abord, à mon avis, une aventure humaine.
Romain de Charme.
Je suis tout à fait d'accord avec Stéphane. Ce qui est extrêmement important, c'est la sincérité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens n'écoutent plus le discours politique, c'est parce que, le français tout du moins, c'est parce que on a la sensation que c'est artificiel, que c'est joué. On a juste à regarder la déclaration de Macron pendant les Gilets jaunes, où il avait les mains sur la table, on aurait dit un robot. Donc c'est réellement, ce qui est important, c'est d'être sincère. Et c'est là où moi, après, la différence que l'on a peut-être, c'est que pour moi, toute la forme, toute la technique, toute la voix, tout ce qui est la respiration, en fait, ça revient naturellement quand on maîtrise le fond et quand on a confiance dans les arguments que l'on prononce. Donc c'est extrêmement important de travailler le fond. Et j'aimerais faire une dernière précision sur les deux petites jeunes filles. Quand on fait référence à l'art oratoire, généralement, les gens pensent à la profession des avocats ou de la politique. On n'a pas besoin de progresser en termes d'art oratoire, de vouloir devenir avocat ou faire de la politique. L'art oratoire est partout. Elle est quand vous achetez votre baguette de pain. Elle est quand vous allez en classe. Elle est quand vous managez votre équipe au travail. Elle est partout. Il y a quatre grandes disciplines dans l'art oratoire. On ne pense qu'au discours, mais il y a la discussion, il y a le débat, il y a les négociations que l'on vit tous les jours. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à parler en public, parce que le monde appartient à ceux qui savent parler.
Valérie Gerlin.
Je suis entièrement d'accord avec notre ami Romain, avec notre ami Stéphane. La sincérité, j'en suis convaincue. Moi, je fais du théâtre avec mes élèves. Donc c'est par le théâtre que je fais passer tous les messages que vous faites passer autrement. Par le théâtre, on est obligé d'être sincère pour montrer une émotion. On ne peut pas faire semblant. On est d'accord ?
On est d'accord.
Donc, à partir de là, pour mes élèves de théâtre, je les fais travailler toute l'année en progression pour arriver jusqu'à un spectacle où je peux vous dire que le jour du spectacle, non seulement ils sont archi prêts parce qu'ils ont une technique parfaite d'articulation, de diction, d'élocution.
Mais ça demande beaucoup de travail, ça demande extrêmement, énormément de travail. Alors que travailler sur l'improvisation et sur la maîtrise des arguments, ça nécessite moins de travail pour retrouver la spontanéité.
C'est un autre travail. C'est un autre travail.
Bonjour Laurence, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous êtes enseignante, c'est ça ? Vous êtes parent ?
Alors, je suis enseignante en maternelle, en moyenne section.
D'accord.
Et j'étais pas du tout d'accord avec ce qui a été dit, dans la mesure où, à l'école, il est fait énormément de choses pour l'oral, et notamment en maternelle, puisque les attendus de fin de maternelle sont très claires au sujet de ce qui est attendu en fin de grande section pour l'oral. Donc, pour nous, c'est du quotidien. Les enfants, tous les jours, apprennent à parler. Et ils sont très conscients qu'ils apprennent à parler, maintenant.
Alors, si vous permettez, Ali, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est aujourd'hui, les choses commencent à être faites dans les établissements et je dis bravo. Il se trouve que je suis aussi conseillère municipale dans mon coin et je sais que les choses se font. En revanche, moi, je travaille sur des gens, sur des élèves pour qui rien n'a été fait. Ils arrivent complètement en vrac, dépressifs parfois, parce que ils savent pas où ils vont, ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas de motivation, ils n'ont pas de passion. Donc moi, je rattrape ces gens-là. Mais effectivement, comme le dit votre auditrice, aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites et qui sont mises en place, et je dis bravo à toutes ces actions.
Bonjour madame, effectivement, c'est vraiment pour ça que je voulais le souligner en début d'émission. Attention, parce qu'aujourd'hui l'éloquence est à toutes les sauces, c'est la grande mode, et on vient taper sur les enseignants en disant maintenant, voilà, il y a une réforme, ça veut dire qu'avant, jusqu'ici rien n'était fait. Il y avait un cours de rhétorique jusqu'en 1888, il me semble que Jules Ferry a enlevé.
Exactement, oui,
Et donc... aujourd'hui, mais il y avait quand même déjà de l'oralité qui était présente. Énormément d'enseignants ont pris ce pli. Et d'ailleurs, dans les petites sections, madame, c'est peut-être pas là encore où la parole se bride le plus. C'est peut-être, nous, ce qu'on a pu observer, hein, même si nous, on commence à faire quelques cours en maternelle, on voit qu'il y a peut-être d'ailleurs plus de facilité, mais il y a aussi beaucoup d'enseignants à ce stade-là qui travaillent sur l'oralité, sur la discussion. Et donc, je m'inscris complètement dans ce que vient de dire madame.
Alors, peut-être qu'en maternelle, c'est vrai que ça a une part importante parce que l'écrit n'est pas encore extrêmement présent, etc. Mais moi, je peux vous assurer qu'en primaire, collège, lycée, c'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'effectivement, il y a des enseignants qui se donnent comme des malades et qui mettent de l'orateur dans leur cours, qui mettent de l'oral. Mais ça reste quand même l'exception qui confirme la règle. Et d'une manière générale, c'est quelque chose qui n'est pas travaillé. Et c'est pour ça que à la fois les élèves et les enseignants souffrent.
Vraiment, attention. Enfin, il y a beaucoup d'enseignants qui le font, sauf que il y a pas de cours lorsqu'on forme au CAMES. Il y a pas de formation. Sûr, mais attention à dire parce que il y a une jeune génération qui ne peut plus rester.
Ce n'est pas la majorité.
Je termine. Une génération qui ne peut pas rester en salle de classe. Il y a des tests qui ont été faits. Cette jeune génération a besoin de participer, de dialoguer en salle de classe. Elle ne peut plus être juste là à écouter. Et donc, c'est très important de dire qu'il y a une carence dans la formation des enseignants, peut-être, mais ça ne veut pas dire que les enseignants, spontanément,
pas, bien sûr, je n'accuse
ne le font
pas les
pas
enseignants.
Déjà.
Je n'accuse pas les enseignants. C'est pas du tout.
Merci beaucoup, Laurence, d'avoir témoigné ce matin. Ludivine nous dit sur notre page Facebook que j'ai deux enfants. Ma fille, l'aînée, 13 ans, est très réservée, parle peu et une voix plutôt sourde qui ne porte pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, tiens, Valérie Guerlain, parce que pour être éloquent, il faut apprendre quelques astuces, quelques techniques vocales et de respiration. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette maman?
De choses. Tellement
c'est
de
quoi
choses.
La base?
La base, c'est la respiration ventrale. Ensuite, c'est...
Expliquez-nous.
Alors, la respiration ventrale, c'est très simple. De nos jours, nous respirons tous avec le haut du corps. Dans le haut du corps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le cœur. Et le cœur, c'est la centrale de nos émotions. Donc, si on veut gérer nos émotions, il faut redescendre cette respiration au niveau du ventre. On inspire par le nez en gonflant le ventre. Et on souffle par la bouche en rentrant le ventre. Ça, c'est la base. La voix, ça se travaille avec un ascenseur vocal. Bon, moi, j'ai plein de techniques, je vais pas toutes vous les citer
là-bas. Mais
une
technique peut-être pour cette maman?
Une technique, alors je vais vous
dire... La voix de sa petite fille, elle est plutôt sourde.
Il faut qu'elle sorte. Moi, je travaille beaucoup le cri primal. Le cri de bonne santé qu'on
Allez-y.
Crie... Ah non, voilà. Je vais vous faire exploser les micros.
Allez-y.
Et c'est tout un geste, une gestuelle. Ça part de là. C'est pas le moment. Le cri primal, c'est un cri qu'on crie quand on arrive au monde. Et c'est un signe de bonne santé. Puis tout le reste de votre vie, on vous dit, chut, Taisez-vous, s'il vous plaît, ça va bien. Et on doit parler toujours très, très, très doucement. Et le cri primal, si tout le monde en faisait un le matin avant de partir, je peux vous garantir que d'abord, ça soulage, ça met la pêche, et on aurait moins envie de claquer tout le monde.
L'une des bases également, bah, c'est d'articuler aussi.
L'articulation. Petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurre heuriseras-tu? Je me des petits pots de beurre heuriserai. Quand tous les petits pots de beurre se des petits pots de beurre heuriseront. Je veux et j'exige des excuses. Stéphane.
Nous, on est incapables. Excusez-nous, Valérie Guérin. Non, donc, l'articulation, c'est important. Et la posture, Stéphane de Freitas, adopter une bonne posture, c'est quoi? Alors, c'est l'une des bases.
Tout à fait. Alors, on peut, chacun déjà a sa façon de se tenir, à sa propre voix. Il n'y a pas de posture prédéfinie, mais il y a peut-être un socle, c'est-à-dire d'avoir les jambes bien alignées, bien ancrées. Des techniques aussi d'articulation du discours, c'est-à-dire il y a une règle de base qui est de se dire que lorsqu'on prononce un discours et qu'on l'écrit d'abord, lorsqu'il y a une virgule, faire une seconde de pause. Lorsqu'il y a un point dans son discours, faire deux secondes de pause. Ça permet déjà d'apprendre à poser un rythme, à être compris, parce que beaucoup de gens qui sont stressés accélèrent le rythme, même si derrière on peut parfois à des moments accélérer le discours parce que c'est important. Et puis ensuite, de revenir, de maîtriser la ponctuation du silence. Donc il y a des techniques effectivement comme ça qui peuvent faciliter
passer du haut débit au bas débit. Les gens qui parlent trop vite, on ne les comprend pas.
Et c'est vrai que la maîtrise du silence, c'est extrêmement important.
Pourquoi ?
C'est important déjà parce que ça vous permet d'écouter les gens et de regarder ce qui se passe, de prendre conscience de ce qui se passe. Et l'écoute, c'est l'une des qualités les plus importantes dans l'art oratoire parce que ça permet d'accumuler de l'information, ça permet de se rendre compte de l'état d'esprit du public ou de la personne que vous avez en face de vous. Et puis enfin, c'est extrêmement utile pour vous parce que ça vous permet de prendre votre temps, ça vous permet de réfléchir aux choses, ça vous permet vraiment de maîtriser ce que vous dites. Ce que vous dites d'une manière générale. Et au-delà de ça, ce qui est très important aussi, un conseil très important qui est un conseil humain d'une manière générale, c'est d'accepter sa personnalité. C'est-à-dire que si vous avez un accent, l'accent du Sud, ben, n'essayez pas de le gommer, gardez-le, c'est ce qui vous différencie. Si vous êtes petit et trapu, ben, c'est pas grave, ça vous différencie aussi et c'est un avantage. Donc, votre différence un avantage.
Donc j'ai le droit de dire rose, os à la toulousaine.
Exactement, et ça me fait plaisir. Ce qui est important, c'est vraiment de dire ça aux gens parce que et de ne pas essayer de ressembler forcément et d'uniformiser d'une manière générale. C'est ce que font tous les politiques. C'est pour ça qu'on les écoute plus parce qu'ils utilisent les mêmes mots, ils utilisent la même gestuelle et c'est une horreur.
Ça vous parle, ça, Stéphane de Freitas?
Totalement. C'est-à-dire que dans cette première étape, on se demandait comment réussir à se lancer, à encourager des jeunes gens qui seraient timides, ou plus âgés d'ailleurs, parce que c'est pas que des jeunes, à se lancer. Et la première chose, c'est de se dire, voilà, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas une voix, il n'y a pas un timbre de voix particulier, il n'y a pas une gestuelle particulière, c'est-à-dire, vous avez votre personne, vos caractéristiques, et lancez-vous, commencez par partager vos points de vue.
Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison, par exemple, pour s'entraîner à prendre la parole? Quels sont les jeux que l'on peut faire? Moi, j'en ai repéré un dans votre ouvrage Porter sa voix, Stéphane de Freitas, le petit jeu du plus tard je serai.
Alors, effectivement, ça, c'est un jeu très intéressant, c'est de partager, en fait, qu'est-ce que demain, comment on se projette, parce qu'on parfois on a du mal à s'imaginer, à s'affirmer aussi, à faire. Il y a un exercice qui est aussi la présentation super-héros, c'est de se dire, voilà, de se dire, moi, mes qualités, mettre en avant ses qualités, là où on pense qu'on est excellent et incroyable, parce que c'est peut-être pas naturel, mais quand on le qualifie, eh ben ça nous force, même si c'est spontanément, on va dire, ben moi, je pense être quelqu'un de super, méga généreux. Je pense que dans ma famille, il n'y a personne d'autre que moi, je suis la personne la plus généreuse, la plus altruiste de cette famille. Donc se forcer comme ça à sortir de soi, à s'affirmer. En même temps, on le verbalise et on partage aux autres un point de vue qui provoque une réaction. C'est marrant, c'est ludique, mais ça permet aussi de construire sa confiance
en soi. Quel petit jeu on peut faire à la maison, Valérie Guérin? Un petit jeu
pour
la prise de parole, pour oser prendre la
parole.
Alors,
déjà, moi, je dirais, il faut lire à haute voix. Ouais. Ça, c'est indispensable. La lecture à haute voix, n'importe quoi, le bottin, je sais même pas si ça existe encore, les pubs qu'on reçoit dans la boîte aux lettres, n'importe quoi, vous lisez à haute voix, au moins une minute par jour. Et voilà, il y a le bouchon aussi, le fameux bouchon. Alors, vous mettez un bouchon comme ça.
Dans la bouche?
Voilà. Ah oui,
entre les dents?
Oui, entre les dents. Et on le tient entre les dents et on fait bouger les élastiques, oui, parce que les lèvres sont un élastique. C'est des élastiques qui propulsent les mots. Donc avec un bouchon, on fait la lecture à haute voix et comme ça, on apprend à notre mâchoire à beaucoup mieux articuler, à beaucoup mieux être à l'aise. Alors,
Romain de Charme, un petit jeu faire à la maison.
Un petit jeu, instaurer la conférence de presse avant chaque dîner de famille.
Ah, c'est pas mal ça.
Comme ça, ça vous permet déjà de travailler la question-réponse. Donc, comme ça, vous pourrez interagir et vous pourrez, si vous avez des revendications d'argent de poche ou de sortie le week-end, vous pourrez en faire part à votre parent. Ça vous permet donc d'une manière générale, de prendre la parole, de poser des questions, de réfuter ce que vont dire vos frères et sœurs, vos parents. Et donc, ce sera déjà un bel exercice pour l'argumentation et pour la prise de parole.
Stéphane de Freitas, un autre petit jeu peut-être ?
Un autre petit jeu qu'on pourrait faire en
famille. Les 4 ans, par exemple. Les 4 ans de présentation.
Tout à fait. Alors, on peut avoir un exercice qui consiste à dire je m'appelle, aujourd'hui je suis, demain je serai. C'est-à-dire qu'en fait, on pose... ses introductions, et puis derrière, on doit le compléter.
On est créatif, on invente.
Tout à fait, on doit le faire. À chaque fois, on ponctue la phrase en rime, c'est-à-dire qu'on a ces 4 amorces et puis on les ponctue. Ça permet toujours de parler de soi, de le partager aux autres, d'être dans la projection, dans l'affirmation de soi, de qui on est, et de le faire justement en famille. C'est intéressant parce que quand on vit en famille, on a peu d'occasions, finalement, comme dans une salle de classe, à un moment donné, de parler de soi, de ce qu'on ressent, et ça crée du dialogue au sein de la famille, c'est pratique et ça décomplexe.
Romain de Charme, vous avez 10 secondes.
Ce qui est très intéressant, c'est aussi de prendre un mot, de partir de ce mot-là et s'intéresser à l'étymologie du mot et de faire un débat là-dessus. Ouais. Par exemple, vous prenez le mot pharmacie. Pharmacie, ça vient de pharmacon, qui a 2 significations, qui veut dire à la fois poison et remède, et tout est comme ça. Vous pouvez prendre l'amour, vous pouvez prendre la politique et vous pouvez débattre en partant des mots.
Valérie Gerlin.
Se regarder dans les yeux, voilà, devant le miroir tous les jours pendant une minute, et de se reconnecter à l'enfant qu'on était et de se dire « Ok, toi, je vais t'aider ».
Merci beaucoup, merci à tous. J'espère que vous reviendrez parce qu'on a encore un tas de choses à se dire sur ce sujet. Je recommande vivement la lecture de Porter sa voix de Stéphane de Freitas aux éditions Le Robert, ainsi que le petit manuel à l'usage de ceux pour qui l'oral est un cauchemar, publié au livre de poche. Et c'est signé Valérie Guérin. Merci Romain de Charme d'être venu. Demain, on s'intéresse à la tendance du vintage, ce goût pour le mobilier, la mode, les accessoires, la culture des années 50, 60, 70. Aimez-vous chiner les meubles, les vêtements, la vaisselle vintage ? Êtes-vous nostalgique de ces années-là ? Ou alors pas du tout, 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. À la technique ce matin, Pierre-Yves de Rolin et Kevin Pelot.